À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le Dr Vernon McGee du ministère Through the Bible, produit par Trans World Radio. Réalisation Abdoulaye Sango, présentation Marcel Mondiuto. Bonne écoute à tous.
Gloire. Gloire à l'Éternel Dieu de l'univers. Que de nos cœurs un cantique solennel monte à son trône. Il est grand à travers ses œuvres de création. Il est juste et puissant. Oh, qu'il est bon quand il pardonne. Emmanuel Moubitang, notre preneur de son, se joint à moi pour te dire, cher ami, très bonne écoute et bienvenue à ce rendez-vous. Cette instruction à travers la Bible présente est la 876e, tirée de la deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 1, du verset 1 à 6. Librement, après cette méditation, pose des questions à propos. Apprends-nous aussi ce qui aurait particulièrement attiré ton attention. Communiquons. Déjà, note nos contacts que voici pour toute correspondance.
À travers la Bible. À travers la Bible sur TWR. Vos commentaires et vos réflexions nous intéressent. Écrivez-nous à l'adresse suivante, à travers la Bible, 06 BP 21 31, Abidjan 06, Côte d'Ivoire. Téléphone 22 49 03 01. Mobile 00 225 05 51 49 06. Email twr2131@yahoo.fr. Site www.twrafrica.org.
Permets-moi de signaler qu'en l'an 58 après le Christ Jésus, l'apôtre Paul a été arrêté à Jérusalem. L'ambassadeur du Christ a été transféré à Rome, où il arrive en l'an 61 environ. Il y passe 3 ans de détention et va d'un procès à un autre devant différents dirigeants romains. À cette époque de l'an 61 à l'an 63 environ, Paul connaît son premier emprisonnement ferme à Rome. Ce fait n'est pas rapporté dans le livre des Actes des Apôtres, qui s'arrête au tout début de son premier emprisonnement par les Romains. Puis, de l'an 64 à l'an 67 à peu près, Paul a retrouvé la liberté, délivré de la prison. Et il a servi le Seigneur à cette époque. Pendant cette période, il a beaucoup voyagé. C'est à cette époque qu'il a écrit la première épître à Timothée et l'épître à Tite quand il était en Macédoine, région située au nord de la Grèce. Mais peu après l'an 67, Paul est à nouveau arrêté. Et à peu près en l'an 68, l'apôtre a été décapité là, à Rome. Je n'aime pas en parler. Et tout juste avant sa mort, il a écrit la deuxième lettre à Timothée. Nous avons ici donc cette dernière révélation, cette dernière parole. Cette épître contient de fortes paroles. Les deux versets qui donnent la conclusion du thème et le point central de la seconde épître sont 1, Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. 2 Timothée chapitre 2, verset 15. Puis 2. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. 2 Timothée chapitre 4, verset 2. Quel est le thème de cette épître? À mon avis, on peut mettre ici l'accent sur un mot en particulier, le mot fidélité. Fidélité qui présente, 1, la fidélité dans la souffrance, au chapitre 1. 2, la fidélité dans le service, au chapitre 2. 3, la fidélité pendant l'apostasie, chapitre 3 et 4, verset 5. Et 4, le Seigneur est fidèle envers ses serviteurs infidèles, chapitre 4, verset 6 et 22. Voyons le trait particulier, le trait caractéristique de cette épître. Le chant du cygne, la dernière parole de l'apôtre. Cher ami, les dernières paroles d'un mourant sont d'une importance exceptionnelle. C'est ce qui donne tout son sens à cette épître de Timothée. C'est la dernière communication, les dernières paroles de l'apôtre Paul. Elle comporte une note de tristesse qui ne se trouve pas dans ses autres écrits, dans ses autres épîtres. Néanmoins, il y a un air de victoire. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Tu vois, ces fortes paroles sont de l'apôtre comme sa propre épitaphe. Ce qui doit être marqué sur sa tombe. C'est écrit en 2 Timothée 4, versets 6 à 8. Parce que c'est sa dernière lettre, Paul a été très personnel. Dans 4 courts chapitres, il y a environ 25 références à diverses personnes. Nous voyons dans cette brève épître de 2 Timothée un nuage. Nous avons un nuage sombre qui se dessine à l'horizon. Qu'est-ce que c'est? C'est l'apostasie. L'apostasie qui va frapper l'Église dans le futur. Oh, aujourd'hui, l'apostasie a éclaté comme une tempête, comme une tornade dans le monde et dans l'Église. Que voulons-nous dire par apostasie? Quand dit Webster, il définit ainsi l'apostasie. Il dit, c'est l'abandon total des principes de la foi. Ainsi, l'apostasie n'a pas pour cause le fait qu'on n'a pas compris, non. L'apostasie n'est pas due à l'ignorance. C'est une erreur délibérée, volontaire. C'est l'abandon volontaire de la vérité. Un apostat est celui qui connaît la vérité de l'Évangile et les doctrines de la foi, mais volontairement qui les rejette. Ici, dans 2 Timothée, Paul parle du résultat final de la prédication de l'Évangile. Cette prédication n'entraînera ni la conversion totale de toute l'humanité, ni n'entraînera le millénium. Au contraire, l'apostasie viendra et enlèvera la foi presque totalement de la terre. En fait, deux départs auront lieu à la fin de notre ère. Le départ de l'Église ou enlèvement traduit du mot grec arpazo qui signifie enlever. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est écrit en 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17. Quand les chrétiens seront partis, ceux qui seront restés ici-bas se détourneront de la foi. Et ça, c'est un autre départ. C'est le second départ, l'abandon de la foi. Oui. Le Seigneur Jésus en personne en a parlé de façon impressionnante. Il a dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc 18, verset 8. En grec, cette question exige une réponse négative. La réponse est donc non. Il ne trouvera pas la foi sur la terre quand il reviendra. Mais cette analyse ne s'accorde pas avec ce que les gens appellent aujourd'hui l'évangile social. L'évangile social qui dit pouvoir transformer le monde en faisant du social. Par exemple, envoyer de la nourriture là où il y a la famine, envoyer de l'eau là où il en manque, avoir des médicaments et les amener là où ça manque, etc. Et c'est très bien. Et cela peut être un moyen d'atteindre les gens. Mais cela doit être compris dans la présentation de l'Évangile, dans la doctrine des apôtres. Il faut que les paroles tristes de la deuxième lettre de Paul à Timothée y trouvent leur place, au lieu que ces prédicateurs de l'Évangile social les considèrent comme de l'obscurantisme, comme si les paroles de cet épître s'opposent à la présentation de l'Évangile et empêchent que les gens soient éclairés. Contrairement à cela, les faits du passé, c'est-à-dire l'histoire et les événements actuels, prouvent que les paroles de Paul sont tout à fait justes et convenables. Aujourd'hui, nous voyons partout des apostats, des sectes d'erreurs, qui enseigne des doctrines de démons. Le ministère du responsable, c'est de dénoncer ces choses et ne pas les ignorer. Nous sommes actuellement au cœur d'une apostasie qui correspond en tout point aux paroles de l'apôtre Paul. L'Église visible est entrée dans l'orbite. L'Église visible a pris le chemin d'une apostasie effrayante. Mais l'Église invisible, c'est-à-dire l'ensemble des vrais croyants, n'est pas affectée. Elle n'est pas affectée. Ceux-là restent attachés à la vraie doctrine. L'Église authentique, l'Église invisible du Christ, est encore aujourd'hui sur la terre ici-bas. Elle se dirige calmement, malgré les agitations du monde, vers le moment glorieux de l'enlèvement. Je souhaite que chacun comprenne la réalité de cette Église, l'Église invisible. Cela est encourageant et nous réconforte dans notre marche de tous les jours dans ce monde. Le désir de Paul est que nous soyons au-dessus des apostats, ceux qui ont abandonné la saine doctrine. À cause des menaces de l'apostasie, Paul met l'accent ici sur la parole de Dieu, plus que il ne l'a fait dans aucune autre épître. En fait, Paul et Pierre s'accordent chacun d'eux dans son champ du signe, dans ses dernières paroles. 2 Timothée et 2 Pierre mettent l'accent sur la parole de Dieu et sur l'Évangile. Mon cher, l'Évangile repose sur un fait terrible, la corruption, la pourriture totale de l'homme. En d'autres termes, l'homme est un pécheur perdu. On a exprimé cette réalité ainsi. Tandis que les éducateurs affirment que la nature morale de l'homme peut s'améliorer, le christianisme traditionnel, le christianisme authentique affirme que la nature morale de l'homme est corrompue et totalement mauvaise. Alors que les éducateurs soutiennent qu'un agent humain externe peut améliorer l'homme, le christianisme, lui, le christianisme traditionnel, déclare que le seul qui peut le changer est Dieu. Et puis, La nature morale de l'homme n'est pas améliorée, mais elle a été changée contre une nouvelle. Voilà ce que l'on a dit. L'homme est dans un tel état, état pourri, qu'il ne peut être sauvé par une obéissance parfaite, parce qu'il en est incapable. Il ne peut non plus être sauvé par une obéissance imparfaite, parce que Dieu ne l'acceptera pas. Par conséquent, la seule solution est l'évangile de la grâce de Dieu qui sauve le pécheur sur la base de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. La foi en Christ transforme la vie humaine. Aujourd'hui encore, des hommes et des femmes sont transformés par l'évangile de la grâce de Dieu. Au lieu de présenter la grâce de Dieu aux pécheurs, la prédication non biblique se partage en trois directions différentes. Certains de ces prédicateurs donnent des cours de psychologie à la mode en abordant des sujets comme « Comment surmonter vos problèmes ?» ou « Comment faire preuve de créativité ?» ou encore « Comment penser de façon positive ?» Ces gens affirment que nous sommes toujours sur un chemin ascendant, un chemin qui monte, qui va de victoire en victoire. Or, cette psychologie à la mode ne nous mène à rien. Elle ne fait que nous tourner sur nous-mêmes. Le deuxième type de prédication non biblique met l'accent sur la moralité. Elle prêche un gentil petit évangile, un petit sermon prêché par un petit prédicateur à de petits chrétiens. On nous trompe. Le message est à peu près celui-ci. Le bien est mieux que le mal parce qu'il est plus agréable et entraîne moins de problèmes. Vois-tu, ce type de prédication nous présente la situation où un homme bien élevé se tient devant un groupe de personnes également bien élevées, entre parenthèses, et les pousse à devenir encore mieux élevés. Il n'y a rien d'aussi insipide, il n'y a rien d'aussi fade, de sans valeur. Rien d'étonnant à ce que le Seigneur Jésus ait dit à l'église de Laodicée, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Apocalypse 3, versets 15 et 16. Ces gens rendraient malade quiconque. Il faut dire la vérité telle qu'elle est révélée par le Seigneur Dieu. Enfin, il existe un troisième type de prédication non biblique qui s'appelle l'évangile social. Cet évangile prêche des relations sociales meilleures, le pacifisme, la justice sociale et l'ordre social chrétien. Il s'agit tout simplement d'un socialisme chrétien. Amis, c'est seulement lorsque le véritable évangile est prêché et que des gens reçoivent Christ qu'ils deviennent tous des frères. Nul n'est besoin de ces conseils concernant de meilleures relations sociales. L'on ne peut créer de meilleures relations en forçant les gens. Non, non. Seul l'évangile de la grâce de Dieu fera des hommes des frères. Et quand cela se produit, la couleur de la peau d'un homme ne fait plus de différence. Reconnaissons que Dieu a créé à partir de rien. Le Seigneur a créé à partir de rien. Tant que l'homme offre quelque chose, Dieu ne fera rien pour lui. La grâce de Dieu par le sacrifice de Christ est la seule façon de transformer et de sauver l'humanité. C'est ce qu'enseigne cet épître et c'est pourquoi il est important pour nous de l'étudier. Dans le premier chapitre de la deuxième épître de Paul à Timothée, l'apôtre exhorte Timothée à persévérer dans la voie qui lui a été tracée. Il dit, 2 Timothée chapitre 1, versets 1 et 2, « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Apôtre de Jésus-Christ. Comme d'habitude, dans ses écrits, Paul commence par souligner qu'il est apôtre de Jésus-Christ. Timothée le sait très bien. Est-ce nécessaire de le lui répéter encore? Mais Paul le rappelle non seulement à Timothée, puisque la lettre est personnellement adressée à lui, mais aussi à un public plus grand, à toi et à moi. De Timothée chapitre 1, verset 3. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que, nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Voilà exprimé au Seigneur sa reconnaissance pour son salut et son ministère. Mais ici, il commence à dire merci au Seigneur pour le salut et le ministère de Timothée. L'apôtre dit que sa foi en Christ ne s'oppose pas à la foi de ses ancêtres juifs, mais bien plus comme une continuité dans leur foi. Paul prie pour Timothée nuit et jour. Et à chaque fois, cette reconnaissance rejaillit en lui et il en est heureux. Paul est en prison. Je le rappelle, il est en prison. Il ne peut que prier. Là, en prison, il ne peut que prier. Quand nous traversons de telles périodes, Dieu veut nous voir prier. Quand tu ne peux rien faire d'autre, prie le Seigneur. De Timothée chapitre 1, verset 4. Me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Voilà. Paul se souvient des larmes que Timothée avait versées lors de leur dernière séparation, sans doute lorsque Paul a été arrêté par les Romains pour la deuxième fois. Dans cette lettre, Paul va lui demander de venir le rejoindre. L'apôtre désire vraiment revoir Timothée, car sa présence lui donne beaucoup de joie. Il désire le revoir dans la joie et non plus dans les larmes, comme lorsqu'il se quittait. Il est évident que Paul aimait Timothée. Et ce verset nous dit aussi que Timothée était très attaché à Paul, son père. L'arrestation, l'emprisonnement de Paul et les dangers de mort qu'il a dû affronter ont vraiment affecté ce jeune homme, Timothée. Paul dit, je me souviens de tes larmes. Si seulement je pouvais te voir, cela me remplirait de joie. De Timothée, chapitre 1, verset 5. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Voilà, Paul est sorti du judaïsme, mais le jeune Timothée, apparemment, a été élevé dans une famille chrétienne. Sa grand-mère et sa mère étaient chrétiennes. Je suis certain que cela a contribué grandement à sa conversion à Christ. Le père de Timothée est grec et on ne sait pas s'il est chrétien. De Timothée chapitre 1 verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Quand Paul a imposé les mains à Timothée, cela voulait dire que Timothée est son collaborateur. Il partage avec lui le don d'enseigner la parole de Dieu. Je crois que Paul a eu l'intention de voir Timothée prendre sa suite, sa relève. Ce jeune homme était proche de Paul, et quand l'apôtre a été mis en prison à Rome, il a dit de Timothée, « Car je n'ai personne ici comme lui qui partage mes sentiments, Voir Philippiens 2, verset 20. Voici un homme qui pouvait continuer l'enseignement de la prédication de Paul. Et par la suite, Paul a fait de lui son collaborateur. Ils étaient ensemble dans le ministère. Remarque maintenant que Paul exhorte Timothée à ranimer le don qui est en lui. Ranime le don qui est en toi. Cet homme a un don et Paul le pousse à le ranimer, à l'aiguiser comme on affûte une machette pour le travail dans le champ. Qu'est-ce que cela t'enseigne? Je me demande si Paul ne se faisait pas de soucis pour Timothée. Éphèse abritait le temple de Diane et était l'une des villes les plus perverties du monde romain. Paul avait passé 3 ans là, à Éphèse, et il savait qu'il y avait mythe et une séduction dans cette ville. Je me demande s'il craignait que Timothée soit un peu réticent et ne prêche pas tout le conseil de Dieu. Nous voyons l'intérêt de Paul pour ce jeune homme qu'il appelle son fils bien-aimé. Il dit, mon fils bien-aimé Timothée, permets-moi de redire les premières paroles de Paul à Timothée dans cet épître. 2 Timothée chapitre 1, à partir du verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Voilà, nous nous arrêtons là. Que le Seigneur soit avec toi. Ranime le don de Dieu qui est en toi. Restons attachés au Seigneur. Amen.
À travers la Bible, un enseignement du Dr Vernon Magee du ministère Through the Bible, une production de Trans World Radio. Pour tout contact, écrivez-nous à l'adresse suivante: à travers la Bible, 06, boîte postale 2131, Abidjan 06, Côte d'Ivoire. Téléphone 22 49 03 01. Que Dieu vous bénisse.